Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
Ah, ça va me coûter combien ?
Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros.
Je m'en fiche. Royalement, totalement, présidentiellement.
Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie.
La façon dont nous sommes en train de projeter notre pays dans 10 ans, c'est fabuleux.
Je suis pas informé de ça.
Je voudrais vous dire qu'il tapait dans les mains, mais manifestement, c'est de manière assez détournée désormais qu'on essaye d'avoir des comportements qu'on peut qualifier de factieux dans les rues de Paris.
Nous sommes en guerre.
Trust me, you don't want to be in Saint-Denis. It's not the same as Paris. Yeah. Trust me.
Ah oui, trust me. Well, Saint-Denis is not Paris. Saint-Denis is not Paris, oui. Qu'est-ce qui s'est passé quand même, hein? Liverpool, Real Madrid, la Coupe des Champions, un grand moment de football, le sport qui unit tout le monde, hein? Si tous les fans du monde voulaient se donner la main, ben là, ils se donnaient le pied, ils se sont donné le gaz, ils se sont donné une certaine ambiance. Heureusement, pas de morts, pas de trop de blessés. Mais quand même, il s'est passé, il faut le dire, un bordel absolument monstrueux qui, j'espère, ne laisse pas présager de ce qui se passera en 2024 aux Jeux Olympiques de Paris. Paris, la capitale. La capitale est quand Thierry Henry disait que Saint-Denis, c'est pas tout à fait Paris, on l'a traité de tous les noms. Eh bien, on va en parler, on va prendre le temps d'en parler avec des témoins et avec des gens qui connaissent ce dont ils parlent. Vous savez, c'est pas mal d'avoir aussi des gens qui savent ce dont ils parlent. Et puis, nous allons évidemment parler des huées, des bravos, de Ursula von der Leyen, qui a eu quand même la phrase la plus extraordinaire depuis le début de l'invasion russe en Ukraine sur le pétrole russe. Vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. Cette femme, je le rappelle, est présidente de la Commission européenne. Nous voilà rassurés. Et puis, nous allons recevoir François Closet. François Closet, écrivain, essayiste, journaliste, tout le monde le connaît. Eh ben, il a écrit, lui, qui a 88 ans, et ne s'en cache pas, a écrit sur les boomers. Il n'est pas du tout, ok boomer. Pas du tout. Et il nous le dira.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Dans tous mes états, mais depuis hier, depuis avant-hier surtout, le monde du football, on peut dire, et pas seulement le monde du football, et dans tous ces états, avec ce qui se passait, ce qui s'est passé dans cette Coupe des Champions, enfin lors de cette finale Madrid-Liverpool. Alors on peut dire, mais oui, mais écoutez, il n'y a pas eu de mort, tout ça, bon, il y a toujours des choses dans les salles de football, c'est comme ça, et puis voilà, et puis c'est Seine-Saint-Denis, et... Oui, d'accord. Et puis ce sont les Anglais, alors chacun cherche ses alibis, chacun se renvoie la patate chaude, chacun cherche à mettre ça sur son voisin. Il n'empêche que ça a été, et je le dis, excusez-moi le mot, ça s'appelle le bordel. Et un bordel, ce n'est pas normal qu'un pays comme la France ne soit pas capable dans son organisation d'empêcher tout ce qui s'est passé samedi soir. Ce n'est pas sérieux. On en parle tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Eh oui, la Seine-Saint-Denis, c'est de la bombe, bébé. C'est NTM, bien sûr, vous l'avez reconnu. Ça s'appelle Seine-Saint-Denis Style. Et quel style, hein? On peut en parler. On va en parler, justement, avec quelqu'un qui connaît très bien la Seine-Saint-Denis, qui est Noam Manoir. Bonjour, Noam Manoir.
Bonjour, André. Ravi.
Moi aussi, ancien policier à Bobigny, qui, je le rappelle, était au Stade de France. On en a parlé le soir des attentats du 13 novembre 2015. Et il vient d'écrire un livre pratique que je recommande, très pratique, Les 100 conseils pour votre sécurité, qui est paru aux éditions Talma, pour la modique somme de 12 euros. Mais c'est vrai, Noam Manoir, je voudrais juste vous faire entendre, alors vous allez me dire, c'est un policier qui a anonyme, parce qu'il est, lui, policier en fonction, Et je voudrais savoir si ça vous paraît un peu refléter ce qui se passe. Alors voilà, monsieur a-t-il dit, je suis policier dans le 93 depuis 12 ans. Aujourd'hui, je suis triste. J'ai travaillé toute la nuit, donc il a envoyé ça hier sur le Stade de France. J'ai vu des choses incroyables. Des petits supporters anglais, espagnols, des enfants terrorisés, des hordes de franciliens, migrants ou pas, ont dépouillé les supporters, parfois avec une violence extrême. J'ai dû désobéir pour intervenir, empêcher certains délits. Tous mes collègues sont choqués. Notre hiérarchie a baissé les bras, on était sans ordre, sans vision du maintien de l'ordre. Alors, il y a eu beaucoup de choses, et je ne vais pas lire toute sa lettre, mais effectivement, on a parlé du fait que, au lieu d'avoir la grève du RERB, les portes Y et Z de deux voies au lieu d'en avoir quatre, le tunnel, etc., je ne vais pas énumérer tous les détails.
Bien sûr.
Tout ce qui s'est passé, le gaz lacrymogène, ça on a vu des photos quand même, et des images totalement inadmissibles, des gens quand même. Et alors, il y a eu quelque chose qui m'a totalement, moi, étonné, c'est qu'on a tout mis, et justement, avant de vous donner la parole, je voudrais rappeler ceci. Voilà ce qu'a dit la nouvelle ministre des Sports, Amelia Oudéa Castéra. Bravo Real Madrid pour ce 14e titre en Ligue des Champions. Les tentatives d'intrusion et de fraude de milliers de supporters anglais ont compliqué le travail des stadiers et des forces de police, mais ne terniront pas cette victoire. La violence n'a pas sa place dans les stades, donc circuler, il n'y a rien à voir, c'est ces salauds d'anglais qui nous ont gâché la fête. Ce qu'a dit également le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il était au PC de sécurité du Stade de France, hein, il était là-bas, voilà. Des milliers de supporters britanniques sans billets ou avec des faux billets ont forcé les entrées et parfois violenté les stadiers. Je répète, violenté les stadiers. Merci aux très nombreuses forces de l'ordre mobilisées ce soir dans ce contexte difficile. Alors, Noam Al-Noir, c'est quand même hallucinant parce qu'on a tous vu les images, on a tous vu les choses et je ne parlais pas de la presse internationale qui présente et des gens qui étaient là, qui présentent une vision très différente. Alors, comment ça a pu se passer? Vous qui connaissez le Stade de France, bien, comment on arrive à ça?
Alors, je vais être très factuel puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. De toute évidence, le résultat démontre que le dispositif de sécurité autour de cet événement, que ce soit au Stade de France ou sur les fan zones, ou même dans les transports parisiens, a été largement sous-dimensionné. La police et les services de sécurité privés, de concert, ont été en dessous de la nécessité de ce qu'exigeait le terrain. Je veux dire que, voilà, c'est le simple exemple, vous l'avez dit, j'étais au Stade de France le soir des attentats du 13 novembre 2015, on avait 70 000 supporters massés dans les tribunes du Stade de France. J'ai vu des dizaines d'individus escalader les grilles et s'introduire. Donc déjà, ça déjà. Ouais, bon. Ouais. Supposons le meilleur des cas, que ce soit des gens qui n'aient pas les moyens de payer les billets. C'est pas bien, c'est pas moral, ça reste de l'ordre de la petite délinquance. Si sur plusieurs centaines, puisque le préfet de police les estime leur nombre entre 300 et 400, vous en avez deux ou trois qui ont un flingue sur eux avec deux chargeurs garnis à 30 cartouches, vous faites un carnage. Donc moi, dans ces conditions, si c'était amené à se réitérer, je n'irais plus à un spectacle ou à une représentation au Stade de France. Je veux dire, si on ne garantit pas ma sécurité et qu'on fait entrer des centaines de personnes sans les fouiller, sans les palper, je veux dire que c'est une mise en danger de la vie d'autrui, ça s'appelle comme ça. Donc, les raisons, on peut tergiverser pendant des heures, etc. Le niveau des forces de sécurité sur place a permis que cela arrive. Ce n'est pas la première fois, puisqu'il faut savoir, sans stigmatiser personne, que le Stade de France se trouve en bord de Seine. Donc, de l'autre côté de la Seine, vous avez un quartier, le Franc-Moisin, mais vous en avez d'autres. Et en fait, bon, alors les gens du Franc-Moisin sont des gens très bien, j'en connais beaucoup, je ne veux pas du tout les stigmatiser, mais la police a décidé, la préfecture en particulier, sur conseil de la police, a décidé il y a environ une dizaine d'années d'installer un pont, une sorte de pont-lévis, si vous voulez, une sorte de pont amovible entre les quartiers sensibles et le Stade de France. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est une voix officielle. Bien sûr. Les soirs de match, donc on interrompt la possibilité de circulation entre les quartiers et le Stade de France pour protéger justement les spectateurs, les supporters, etc., d'une éventuelle menace qui sera en provenance de ces quartiers. Donc ça signifie que déjà, à titre officiel, on reconnaît l'existence d'une menace qui viendrait de l'autre rive de la Seine. Bon, après ça, c'est un autre débat. Moi, bien je sûr. Pense que c'est un petit peu plus complexe que ça. La preuve, c'est pas suffisant. Mais, je veux dire, bon, il n'y a pas eu que le Stade de France. Le Stade de France, ça a été effectivement quelque chose d'aberrant. Hein. C'est extrêmement difficile à regarder. Je
comment,
vous en prie.
Comment il se fait, Noël Ward? Voilà des gens qui arrivent. Moi, je ne veux pas innocenter les Anglais alors qu'on les accable. Comme il ne faut pas exagérer. C'est des gens qui sont venus d'ailleurs, pas seulement d'Angleterre, mais d'un peu partout. Beaucoup ont payé leurs billets, vous disiez vous-même, avant de prendre l'antenne que commence à avoir un faux billet de
alors,
vrai
voilà.
billet.
Moi, je suis choqué par les communications ministérielles,
oui.
parce qu'on accuse les gens d'avoir tenté de frauder, d'entrer avec un faux billet. Donc moi, si j'ai effectivement une personne en tant que stadier qui se présente à l'entrée du stade et qui me présente un faux billet, je me dois d'envisager l'éventualité qu'elle soit une victime, c'est-à-dire qu'elle ait payé son billet et qu'on lui ait vendu un faux billet. Et à ce moment-là, effectivement, il faut trouver une solution d'urgence, mais d'évidence, si effectivement on avait 120 000 personnes pour 80 000 places, on ne pouvait pas contenter tout le monde. Mais bon, déjà, la proportion paraît suspecte. C'est-à-dire Bien que sûr. Sur 80 000 places, on a quand même un ratio de 1,5. On a quand même 40 000 places.
Ils parlent de 40 000 faux billets, comment ils peuvent le savoir?
Donc, enfin, bon, c'est n'importe quoi. Je veux dire, il y a quand même des paiements sur Internet, etc. Bien Donc, alors là, il faut s'inquiéter. Je veux dire, on ne peut pas tracer les flux financiers qui ont permis aux spectateurs. Il n'y a pas eu 40 000 ventes de billets à la sauvette. Donc, il y a une raison. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, entre 300 et 400 personnes qui s'introduisent dans le stade par la force, alors qu'on prétend oui. un dispositif
grilles,
voilà,
oui.
qui escalade des grilles ou qui force ou qui les force. Portiques de sécurité aussi, hein, on en a eu. Donc, on parle de 6800 policiers déployés, donc 6800 policiers face à 400 personnes qui, a priori, adoptent un comportement de délinquance. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Et donc, 6800 policiers, sans parler... Donc, les 6800, c'était sur l'ensemble du dispositif. Il y avait les oui. fan zones, etc. Et enfin, le préfet de police qui dit, qui déclare dans un communiqué... D'une part, qu'il n'y a pas eu d'incident sur les fan zones, les vidéos démontrent le contraire. Hein. Il y a eu des problèmes Absolument. À Nation. D'ailleurs, les policiers n'ont pas maintenu l'ordre. Pour ce que j'ai vu, des tables renversées, des chaises renversées, etc. Ça, c'est pas ma définition de ce que pourrait être l'ordre, mais soit, admettons qu'il y ait des circonstances atténuantes ou aggravantes.
Et surtout,
la grève de la RATP. On dit que c'est de la oui. faute des grévistes de la RATP oui. parce que les supporters ont été maintenus oui. contre leur gré dans les stations de métro et que finalement ils étaient à la merci des délinquants, des prédateurs, puisqu'il y a eu des agressions sexuelles,
il y a eu des vols à l'arraché, des
agressions, des tabassages.
Oui,
il y en a eu à toute heure, ça a commencé à 15h30, on a eu les premiers signalements au HAL, ensuite il y en a eu à 17h, il y en a eu à Place Clichy aux alentours de 19h, ça s'est poursuivi. Donc à 22h, on a eu une agression sexuelle et un peu après minuit, aux alentours de minuit, on a eu au niveau du tramway quelques affrontements, des frottements avec l'utilisation de mortiers d'artifice, etc. Donc avec voilà, des charges contre les effectifs de police, des agressions, etc. Donc il y a eu sûrement, bon, il doit y avoir une part de vérité, il y a peut-être eu un peu d'hooliganisme du côté anglais, ça doit arriver, mais il y a une section à la DRPP qui est chargée de la détection des mouvances hooligans. Hein.
Oui.
Donc normalement, il y a des gens qui sont payés pour ça.
Quand on voit des images, moi c'est ça qui m'a frappé, il y avait des gens qui n'étaient vraiment pas des hooligans, il y avait ces Anglais qui étaient avec leurs gosses, vous savez, anglais ou français d'ailleurs, qui ont été aspergés de gaz lacrymogène. On voit des images de alors, ils n'étaient pas en train, enfin, apparemment, après, moi, j'étais pas là-bas, mais on voit très bien, ils sont derrière les grilles, ils n'arrivent pas à entrer d'ailleurs, ils agitent leurs billets et puis on les asperge.
Alors, mon vécu de policier, je oui. regarde, bon, les casques noirs avec deux bandes bleues, c'est des effectifs de sécurité publique, c'est-à-dire des policiers de commissariat qui sont réinvesti de façon occasionnelle sur la base du volontariat pour faire du maintien de l'ordre. Donc ce ne sont pas des professionnels du maintien de l'ordre. Quand c'est deux bandes jaunes, ce sont des CRS. Quand c'est un casque tout bleu, ce sont des gendarmes mobiles. Et puis parfois, il y a des compagnies d'intervention qui ont des tenues traditionnelles qui sortent un petit peu du commun, mais ils sont extrêmement minoritaires. Donc là, c'est principalement des policiers avec deux bandes bleues. On le voit à Nation, mais on le voit également au Stade de France, qui se comportent ainsi. Donc ce ne sont pas des professionnels du maintien de l'ordre.
Ouais.
Alors qu'on a quand même en France, 7e puissance économique mondiale, on est quand même au 21e siècle, on a quand même des gendarmes mobiles, des escadrons, etc., qui sont disponibles. Donc pourquoi est-ce qu'on va dépouiller les commissariats de l'agglomération parisienne pour aller sécuriser au préjudice des habitants qui ont besoin de sécurité au quotidien, pour aller sécuriser des manifestations sportives privées? Les footballeurs sont millionnaires, etc. Les policiers viennent, ils font des heures supplémentaires qu'ils ne peuvent pas se faire rémunérer, ils les rattrapent par la suite quand c'est possible. Donc moi je ne comprends pas...
Désorganisation, manque d'organisation.
Mais même au-delà de ça, d'un point de vue philosophique et éthique, à quel titre est-ce que la police nationale, aux frais du contribuable et au préjudice des habitants qui ont besoin de la police pour d'autres missions, vont sécuriser des manifestations privées dans lesquelles on regarde des millionnaires taper dans le ballon? Je veux dire, à un moment, nous, c'est quoi notre intérêt là-dedans? Donc, il faut le faire, parce qu'il y a un risque terroriste, je l'ai rappelé tout à l'heure.
Bien sûr.
Mais je veux dire, des risques très spécifiques. Bon, la police a le monopole de la force légitime, hein, de la coercition, donc il n'y a pas de souci, ils doivent être là. Mais je veux dire, il y a un problème d'éthique. Moi, je ne sais pas pourquoi on va sécuriser les matchs d'entreprises privées qui sont là pour générer du profit. Donc, il faut réfléchir, peut-être, d'un point de vue éthique, si on veut faire des choses efficaces, à peut-être une prise en charge. Je veux dire, les policiers sont payés 1800 euros par mois en début de carrière.
On parle des institutions privées qui s'occupent de cela. On continue juste dans un manoir avec vous, après cette petite pause. À tout de suite, on continue.
Ici Sud Radio. Français, parle ton français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et nous sommes toujours avec Noam Anouar, ancien policier à Bobigny, qui s'occupe de sécurité, qui a écrit ce livre « Les 100 conseils pour votre sécurité », qui connaît très bien la Seine-Saint-Denis et le Stade de France, bien sûr. Juste un mot, Noam Anouar, on va commenter un peu ce qui s'est dit justement au niveau du ministre de l'Intérieur et du ministre des Sports. Mais c'est intéressant parce qu'il y a eu quand même beaucoup de sonores. Notamment un supporter... pas vraiment anglais, mais qui dit sur Snapchat, qui dit voilà, moi j'ai fraudé, voici, c'est très rapide, écoutez.
Paris, viens ici, sans papier, sans rien du tout, mais on rentre à un match, les gens sont achetés 5000, 6000, pour gratuit, ni à France, je vais niquer la France bientôt. Regarde, si you want to drive, vive l'Algérie, le Maroc.
Alors lui, c'était, les a achetés 5000, 6000, moi, je le fais tout de suite et je m'en... et voilà.
Oui, bon. Bien sûr.
Et puis voilà. Bah,
écoutez, la vie n'est pas faite comme ça. C'est-à-dire que si on attend de tous les gens qu'ils soient intègres, il n'y a plus de police, il n'y a plus de justice, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. On sait que ces gens-là existent. Donc normalement, si on a un tant soit peu de fierté et de compétences et d'efficacité... on le retrouve dans la semaine et puis on le met dans un charter. Je veux dire, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Donc il a montré sa tête, c'est peut-être l'erreur qu'il a faite. Donc c'est l'ancien fonctionnaire du renseignement qui vous parle, il est probablement du secteur. Donc je pense que s'il nous écoute, il doit fuir, à mon avis, il doit s'éloigner, parce que je pense qu'il ne lui reste pas très longtemps, à mon avis.
Sauf si on a envie de le choper.
Bah écoutez, si on veut essayer de limiter la casse en termes d'image, etc., déjà vis-à-vis du peuple français, bon, ce qui s'est passé a donné une image catastrophique de ce qu'est la France en général, hein, parce qu'il n'y a pas que l'aspect sécuritaire. Donc, normalement, ce type-là, normalement, c'est réglé rapidement. Hein. Je pense que si on a réussi, si mes collègues et mes successeurs ont réussi à pénétrer le terrain, et ils doivent avoir les relais nécessaires pour pouvoir l'identifier rapidement et le retrouver. Hein.
Alors, comment vous expliquez, justement, ce communiqué, quand même, tout le monde a vu tout, et Gérald Darmanin était dans le PC Sécurité au Stade de France, il voyait tout, la ministre des Sports également. Comment vous expliquez que tout de suite, les uns et les autres tombent sur les mêmes, c'est-à-dire, au lieu de se dire, il y a un vrai problème, traitons-le, après tout, ça arrive. Non, pas du tout. Là, c'est la faute aux Anglais ou c'est la faute à ceux-ci.
Oui, parce que le ministre de l'Intérieur est le premier flic de France, donc en principe, c'est l'homme le mieux informé, et puis c'est aussi celui qui détient le pouvoir de décision sur la force publique. Donc le maintien de l'ordre, le traitement des troubles à l'ordre public, etc., c'est son travail. Mais il a aussi une mission d'anticipation qui est peut-être plus importante que celle justement du maintien de l'ordre, parce qu'elle permet, quand on anticipe, en fait, on n'a plus besoin de maintenir l'ordre, on neutralise la menace avant le début d'exécution. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple, à mon avis, alors ça n'engage que moi, de dire, ce sont les Anglais, donc c'est une menace qui provient de l'étranger, on pouvait pas la détecter parce que ça se passe pas sur notre territoire. Donc, à demi-mot, on accuse les Anglais en disant, vous nous avez pas prévenus. Vous auriez dû nous avertir du caractère particulièrement virulent des supporters que vous nous avez importés. C'est beaucoup plus simple que de dire, finalement, ça se passe chez nous, on a perdu le contrôle, c'est... Bon, je pense que les Français ont compris, et justement, effectivement des Britanniques nous écoutent, qu'ils sachent qu'on est, on est avec eux. On a compris, nous on sait qui ils sont, on les respecte et on les remercie d'être venus chez nous, faire marcher l'industrie du tourisme, consommer chez nous, etc. Moi je les blâme pas, au contraire, ils sont les bienvenus et j'espère qu'on sera en mesure de mieux les accueillir les prochaines fois, y compris les Espagnols qui nous ont montré une réalité cruelle que chaque Parisien et chaque Francilien a pu constater de ses yeux. Paris est une ville sale, infesté de rats, c'est horrible, on peut pas s'asseoir quelque part, on peut pas s'allonger sur une pelouse sans être attaqué ou assailli par des rongeurs, ça prend des proportions énormes, donc je veux dire, c'est pas un problème nouveau, donc je les remercie en réalité, parce que c'est peut-être grâce à eux que ça va rentrer dans l'ordre au final, puisque quand nous Français sortions dans la rue, les experts en détection de troubles à l'ordre public qui n'ont pas vraisemblablement fonctionné cette fois-ci nous disaient que les gilets jaunes, le convoi de la liberté, les antivax, c'était dangereux, qu'il fallait les interdire et on les tabassait quand ils se présentaient sur les terrains de manifestation. On a même arrêté Place d'Italie une manifestation une demi-heure après son démarrage. Donc, pour refaire le lien avec ce qui s'est passé samedi, alors moi, s'il m'était donné d'être responsable, ne serait-ce que d'un match de foot dans un quartier ou quoi que ce soit, mais là, avec le passif qu'on a au Stade de France, si j'ai 70 000 personnes confinées dans le Stade de France et que j'ai 3 personnes qui escaladent la grille et que je ne sais pas qui elles sont, je ne sais pas ce qu'elles ont sur elles et qu'elles s'introduisent, tant qu'on ne les a pas retrouvées et éventuellement neutralisé, moi j'arrête le match. Je veux dire, je ne laisse pas commencer un match, même bien 35 sûr. Minutes après son début.
Avec ça, oui.
Si on a trois personnes dans le Stade de France, dont, d'ailleurs ça arrive à Roissy. Une fois, on a eu une intrusion à l'aéroport de Roissy, on a paralysé tous les vols pendant plusieurs heures.
Non, mais non, Manoir, ce qui est incroyable, c'est que même les moyens de transport, l'accès, les grilles, etc., n'étaient pas organisés pour accueillir des milliers de gens qui venaient de partout. C'est ça qui est fou. Alors, en dehors même de la sécurité des armes.
Alors en fait c'est un problème. Je pense que quand on cherche, en fait, on finit par trouver. J'aime pas dire ça parce que ça pourrait vouloir dire que c'est bien fait, etc., alors que c'est pas du tout le cas. Mais à un moment, on ne peut pas faire des économies sur tout, il y a des fondamentaux. Dans mon livre, d'ailleurs, dont vous parliez tout à l'heure, j'évoque la pyramide de Maslow, donc vous avez les besoins vitaux, respirer, manger, boire. Juste au-dessus, vous avez le besoin de sécurité. Sans sécurité, rien n'est possible. Ni le besoin d'appartenance, ni le besoin de reconnaissance, ni les besoins superficiels. Donc la sécurité, c'est la base de tout. Donc là, je veux dire, si on transige sur la sécurité, on commence à faire des économies, on va avoir de sérieux soucis. D'ailleurs, les pays du monde entier, puisqu'ils vont nous envoyer leur délégation dans le cadre des Jeux Olympiques qui vont se dérouler dans un an, vont se poser la question, puisque nous-mêmes, à l'époque des Jeux Olympiques de Sotchi, nous n'avions pas confiance en les forces armées et la police russe pour sécuriser notre équipe. On a fait escorter notre équipe d'athlètes par le RAID. Voilà. Donc du coup, est-ce que les autres pays vont nous envoyer leur police aussi parce qu'ils ne nous font pas confiance ? Il faut que le président de la République réagisse. Voilà, la sécurité, ce n'est pas un métier qui s'improvise. Non. C'est un métier qui exige des connaissances, la stratégie, une maîtrise du terrain, un réseau, une efficacité, une réactivité. Ça n'a pas été le cas. L'erreur est humaine, persévérer est diabolique.
Bien sûr. Alors le vrai, c'est que l'erreur est humaine, mais c'est l'exemple qu'on a donné aujourd'hui au monde entier. Il n'est pas un exemple glorieux. On espère vraiment qu'ils vont prendre les moyens de faire autrement.
Nous, ça fait 5 ans hein, qu'on le vit, les manifestants, etc., qui luttent pour améliorer les conditions sociales et préserver en l'état nos acquis, la qualité du service public, etc. Les soignants, hein, je veux dire, moi j'ai commenté des scènes où une soignante se faisait tirer par les cheveux et traîner, quoi. Je veux dire, donc, pour le coup, voilà, c'est peut-être cette visibilité à l'international qui va faire que ça change. Puisque ici, entre nous, en famille, quand on a essayé de laver notre linge sale, on a tout essayé et rien n'a fonctionné. Ouais. Je ne vais pas vous faire le bilan des éborgnés et de tout le reste. Hein. On s'est déjà parlé à ce sujet.
Noam Anouar, merci beaucoup.
Je vous en prie,
avec
plaisir.
Merci et vous reviendrez, parce qu'il faut effectivement mettre la plume dans la plaie, vous mettez la voix dans la plaie, c'est ce qu'on aime.
Et je rappelle le titre de votre livre, 100 conseils pour votre sécurité. Et puis on reçoit François de Closet dans un instant, mais vous pouvez évidemment nous appeler au 0826 300 300 sur ces scènes de chaos à Saint-Denis.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour.
Emmerdante, emmerdeuse, emmerderait si tout. Elle passe, elle dépasse, elle surpasse tout. Elle m'emmerde, vous dire, ige. Mon Dieu, pardonnez-moi ces propos bien amers. Elle m'emmerde, elle m'emmerde.
Alors, à votre avis, auditeur de Sud Radio, résistant de Sud Radio, qui nous emmerde en ce moment ? Ah, ben soyons clairs, hein, il n'y a pas évidemment les gens de l'extérieur. Il n'y a pas que les hooligans de bien de chez nous. Il n'y a pas que des services défaillants. Il n'y a pas tout cela. Il y a quand même l'extraordinaire, la magnifique, l'incontournable, l'immarcescible Ursula von der Leyen. Je rappelle, Ursula von der Leyen, présidente, effectivement, de la Commission européenne, et qui a sur nous, je ne dirais pas droit de vie ou de mort, mais enfin quand même, hein, les vaccins, etc., tout c'est Ursula. Et Ursula, évidemment, qui a pris fait et cause, évidemment, et elle a raison pour l'agresser et contre l'agresseur contre l'invasion de la Russie. Alors, voilà, elle a proposé, il y a un mois, avec une formidable énergie, elle dit, voilà, nous proposons l'embargo, au nom de la Commission européenne, au nom de l'Europe, l'embargo sur le pétrole russe. Elle a dit, soyons clairs, ce ne sera pas facile, mais nous avons à le travailler. Parce qu'il faut être sûr que nous éliminons de tout notre marché le pétrole russe de façon ordonnée. Et il faut maximiser, il faut accentuer à mort la pression sur la Russie, mais en même temps minimiser, bien sûr, l'impact sur nos économies. Voici ce qu'elle disait, Martial, les troupes ont suivi, il fallait y aller, attention, tous en ordre, de façon à ce, comme disait l'immortel Bruno Le Maire, réduire à zéro, réduire, mettre à genoux l'économie russe. Mais voici que la même Ursula von der Leyen fait un tournant à pratiquement 180 degrés. Alors écoutez ce que dit la délicieuse Ursula et vous savez ses amitiés avec Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Écoutez Ursula.
Well, what we also always have to do is find the right balance. I take the example of oil. Mm-hmm. Where we have to be careful is that if we would completely cut immediately, as of today, off the oil, he might be able to take the oil that he does not sell to the European Union to the world market, where the prices will increase, and sell it for more.
Et voilà. Et voilà comment l'esprit vient aux vieilles filles. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'elle dit, Ursula von der Leyen ? Il faut toujours trouver le bon équilibre. Écoutez, je vais prendre l'exemple du pétrole. Par exemple, il faut faire attention. Si l'on se coupe complètement du pétrole russe, donc ce qu'elle proposait il y a un mois et demi, en disant c'est plus possible, embargo total sur le pétrole russe. Mais ce salaud de Poutine, elle ne dit pas ce salaud, mais je le dis moi-même, n'est-ce pas ? Poutine va être en capacité de vendre sur le marché mondial le pétrole qu'il ne nous vend pas. Et alors, les prix vont hausser. La hausse de tous les prix de tous les pétroles. Et qu'est-ce qu'on devient, nous ? Regardez, c'est incroyable. La sagesse, voilà. Elle a commencé à comprendre. Oui, allons-y, sabre au clair. On va fiche la Russie en l'air économiquement. Ah oui, oui, mais le pétrole va aussi monter parce que Poutine, il va vendre ailleurs, il va vendre en Asie, il va vendre un peu partout, il va vendre en Inde, etc. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Voilà, voilà, regardez comme la réflexion et la raison arrivent. C'est très intéressant. Donc, Ursula, guidez-nous, mais s'il vous plaît, ne changez pas à chaque fois, à tous les carrefours, parce qu'on ne sait pas où on en est déjà, que c'est difficile.
Et dans un instant, on va parler fête des mères et puis la fête des boomers, en tout cas. C'est le livre de François de Closet et vous nous appelez au 0826 300 300.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Massacre en Amérique, tuerie de masse. Alors, polémique, oui, le permis de port d'armes, voilà ce que ça donne aux États-Unis. En France, comme chacun sait, il n'y a pas de permis de port d'armes, c'est beaucoup plus légiféré, mais c'est pas mal non plus chez nous, hein, les crimes et les attentats, c'est pas mal non plus. Mais en fait, Barack Obama a tenu à apporter son grain de sel, et Barack Obama a tout à fait le droit d'apporter son grain de sel, mais on en parle tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Ah, on sait très bien, chère Dalida, que l'homme politique, par essence, son art premier est celui de la parole. Donc on ne peut pas reprocher à l'homme politique, qu'il soit Obama, qu'il soit Macron, ou qui ce soit, de ne pas l'utiliser et même, hélas, souvent en abuser. Alors, Barack Obama a fait un tweet sur ce qui s'est passé, vous savez, cette horrible tuerie de ce jeune de 18 ans, Ramos, qui a massacré pratiquement une vingtaine d'enfants dans une école du Valdé. Il sortit sa mitraillette, il a tiré dans le tas et c'est vraiment immonde. Et voilà, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe comme ça tous les 15 jours, tous les mois? Il y a, alors, on ne va pas remonter aux causes, on ne va pas discuter là-dessus, mais simplement citer effectivement le tweet étrange quand même d'Obama. Il dit, pendant que l'Amérique pleure une vingtaine de victimes, dont une majorité d'enfants, Barack Obama rappelle, et dans le même, en quelques lignes, il rappelle que deux ans ont passé depuis que George Floyd a été tué et étouffé sous le genou d'un officier de police. Il dit, voilà, ce meurtre reste avec nous et demeure avec nous, effectivement, spécialement pour ceux qui l'aimaient. Et il a raison, c'est un crime. Évidemment, George Floyd a été tué par un officier de police. Mais franchement, quel rapport entre des enfants qui n'avaient aucun passé judiciaire et pour cause, et George Floyd? Parce qu'à ce moment-là, il faut, vous savez, il faut faire toujours très attention, parce qu'à ce moment-là, on peut citer toutes les victimes de partout, qu'elles soient noires, qu'elles soient blanches, qu'elles soient bistres, qu'elles soient asiatiques. Vous savez, Moi, je suis Black Lives Matter, et ô combien, mais All Lives Matter. Toutes les vies comptent. Ça suffit, cette espèce de discrimination, qu'elle soit positive et qu'elle est surtout négative, faire le tri entre les victimes, faire la concurrence victimaire. Il faut arrêter, et c'est dommage que Barack Obama, qui a tellement de qualité, se prête dans ce tweet à cela. On pourrait s'en passer.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Maman, maman, je préfère à mes jeux fous. Maman, maman, demeurer sur tes genoux et sans un mot dire entendre tes refrains charmants. Maman, 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 maman.
C'est Patachou, Patachou, la merveilleuse chanson évidemment de Georges Brassens, Maman, et puis après il parle de papa. Alors vous savez, on en parle parce que, comme vous savez, hier c'était la fête des mères. Et alors un certain nombre de personnes, d'institutions, d'associations, de mouvements, ne veulent plus parler de la fête des mères. Alors pourquoi ? Parce que on ne voit pas qu'est-ce que les mères sont objets d'un opprobre total. Les mères, c'est quoi ? C'est une engeance à faire disparaître ? Non, 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 mais... Voilà, il faut arrêter de parler de mère et de père. Et qu'est-ce qu'ils proposent, ces braves gens ? Ils proposent de remplacer le nom « fête des mères » par les fêtes des gens qu'on aime. Ah, ça, c'est formidable, quand même. Ça, c'est formidable. Il n'y a plus de mère, c'est-à-dire, voilà. Donc, la mère ne doit plus danser le long des golfes clairs, elle doit disparaître, puisque, comme vous le savez, maintenant, il n'y aura plus père et mère, il y aura parent numéro 1 et parent numéro 2. Ces fonctions-là ne veulent plus rien dire, puisqu'on va, justement, à dire qu'il n'y a pas une femme, une pourvue d'un utérus et une autre non pourvue d'un utérus, et on ne parle plus de papa et de maman. Quand on arrive à ce stade de délire... On pense quoi ? On veut quoi ? On veut décomposer quoi ? Quel est le problème ? Ça n'a rien à faire. Qu'il y ait deux papas qui se mettent ensemble et qui, par GPA, fassent un enfant, c'est une chose. Mais que l'on fasse disparaître la notion et le nom même de maman, parce que la fête des mères, la mère n'existe pas, on se dit quoi ? À quel stade on est arrivé ? Eh bien, moi, je vais vous dire à quel stade. Ce sont des gens qui ont d'abord la haine de soi, la haine de la biologie, la haine de la culture, la haine de tout ça. Et je vais vous dire, ce sont, franchement, et c'est dommage, et c'est pénible, ce sont des rachitiques du bulbe, ce sont des rachitiques du cœur, et ce sont des rachitiques du ventre. Et c'est franchement assez, assez déconcertant, et surtout assez lamentable.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, le face-à-face.
Et jusqu'à 14h, deux boomers qui se parlent. André Berkov et François de Closet, journaliste et essayiste, auteur de la parenthèse Boomers, réconcilier les générations, aux éditions Fayard. Bonjour.
Bonjour.
François de Closet, alors ce qui est bien chez François de Closet, c'est qu'il n'arrête jamais. On s'est dit, bon, il va se ranger un peu maintenant, il va faire du consensus. Pas du tout. Vous écrivez un livre qui est un brûlot évidemment renseigné, un brûlot documenté, ça ne nous étonne pas de vous. Et vous dites, en fait, la parenthèse boomers, réconcilier génération, mais alors réconcilier génération, comme vous y allez. En fait, vous commencez à tirer à vue vraiment sur les plus de... Allez, les boomers, soit les plus de 60, 70 ans, etc. Je rappelle, et vous ne le cachez pas du tout, François Closet, que vous avez 88 ans, et vous dites, nos générations, eh ben, se sont comportées comme des égoïstes, elles demandent tout, elles ont tout obtenu, et elles en... Et je me permets de dire, et en fait, qu'est-ce qu'elles font pour la génération ? Au lieu de les emmerder, elles ne s'occupent pas d'eux. Grosso modo, je schématise, mais pourquoi cette... Allez, pourquoi tant de haine pour les boomers ?
C'est une simple constatation. Une simple constatation. La France de 1970, celle qui correspond aux années où cette génération de boomers va prendre le pays en main. C'est son tour, les générations succèdent. Eh bien, cette France de 1970, on l'a oubliée. Aux yeux de l'Amérique, pas en se regardant le nombril. Oui. Elle était le dragon de l'Europe, le pays qui devait devenir le plus puissant en Europe. De fait, c'était la France qui était la plus influente en Europe. De fait, la France avait des finances en parfait état. De fait, la France était un grand pays industriel qui allait de l'avant. Bien. La France d'aujourd'hui, C'est une France qui ne peut plus produire ni vendre, puisqu'on a 100 milliards de déficit commercial. N'y fais même pas attention, hein. Nous ne savons plus produire. C'est une France qui a accumulé sur le dos de ses enfants près de 3 000 milliards de dettes. Alors vous dites, pour passer d'une situation triomphante comme ça à une situation catastrophique, il a dû commencer... pendant ces 50 ans, il a dû se produire des choses épouvantables qui ont tout détruit. Que s'est-il passé? Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de famine, il n'y a pas eu d'épidémie, il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu de crise mondiale. Ces 50 ans qui n'ont jamais existé tout au long de l'histoire, je les ai appelés la parenthèse. Pourquoi? Parce que la parenthèse, ça a cette particularité de n'exister que quand ça se referme. Et cette parenthèse enchantée dans laquelle l'histoire... avec son tragique, s'était mise en hibernation. Il n'y avait plus que de l'actualité. C'était formidable. Il n'y avait qu'à se laisser à vivre. Ça s'est terminé lorsque le coronavirus a attaqué en 2020 et lorsque Poutine a attaqué en Ukraine en 2022. Nous sommes revenus dans l'histoire. Mais donc, nous avons eu une parenthèse enchantée hors de l'histoire et de son tragique et la génération qui était au pouvoir, si je puis dire, pendant cette période, a détruit la prospérité de la France gaulliste. C'est quand même... On pourrait se poser des questions. Oh ben non, on le constate, tout simplement. Moi, je dis non. Alors, j'aime pas la notion de culpabilité, de responsabilité. On constate les choses. Je constate une chose, c'est que cette génération... qui est arrivé dans un monde qui avait perdu la dimension du tragique, qui ne vivait plus sous la menace permanente d'avoir la guerre et puis d'avoir des famines et une crise, etc. Non, tout était donné, on vivait dans la paix, définitivement, on était dans la croissance,
la fin
on
de
avait
l'histoire.
Le plein emploi, c'était ouais. La fin de l'histoire, c'était la fin de l'histoire. Cette génération, je dis simplement qu'elle a cédé à la facilité, vous savez, les délices de Capoue, ça n'a pas été inventé hier. Et donc, elle s'est laissée vivre, on ne peut pas, attention... En vouloir à une génération, bah oui, il y a des générations qui sont arrivées à maturité dans un monde tragique, d'autres dans un monde plus apaisé, ben tant mieux. Mais au moins, elle aurait pu remplir le rôle d'une génération. Qu'est-ce que c'est le rôle d'une génération ? C'est d'assurer la continuité, c'est de faire en sorte que la génération suivante prenne la suite dans les meilleures conditions. Elle aurait pu au moins faire ça, pas du tout. Elle a tout pris pour elle, elle a accumulé toutes les difficultés sous forme de dettes sur la tête de ses enfants. Alors ça, je trouve ça un peu trop.
Alors on va en parler longuement, effectivement. C'est le procès, d'ailleurs. Je vais me faire l'avocat, moi, des boomers, devant mon autre ami boomer. Mais on va en parler longuement et on a jusqu'à 14h avec vous aussi, auditeurs de Sud Radio.
Et on réconcilie les générations autour d'un numéro, le 0826-300-300.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Alors, François Closet, que je ne présente plus, évidemment, c'est une phrase cliché, mais en l'occurrence, pour lui, elle s'applique tout à fait. Depuis le temps qu'il sévit, dans le très bon sens du terme, que ce soit avant la radio et la télévision, les grands livres et l'écrivain et l'essayiste... La parenthèse boomers, alors elle se ferme, François Closet, on en a parlé juste avant les informations. Et simplement, on va effectivement, je vais faire l'avocat de la défense, quand même vous dites effectivement la France, et c'est vrai, dans les années 70, etc., était au fait, enfin était en tout cas un des pays, que ce soit industrialisation, diplomatie, etc. Et vous dites, regardez aujourd'hui, avec la dette, avec ce qui se passe, etc., la parenthèse se referme. Et qui est responsable, peut-être pas du désastre, mais enfin d'une certaine décomposition. Mais est-ce que ce ne sont pas les mêmes qui ont fait cette France et qui l'ont ensuite décomposée ?
Justement pas. Justement pas. Il y a une génération, si vous voulez, qui est la génération qui a redressé la France entre 1945 et, si vous voulez, 1970. Là, cette génération, elle a travaillé dur.
Les 25 glorieuses.
Voilà. Voilà, oui. Et oui. Génération des 30 glorieuses, hein, oui, qui oui. a travaillé dur, qui a redressé la France. Et ce sont ses enfants. Ces enfants qui arrivent dans la société de consommation et qui ont devant eux un monde qui a fait disparaître tous les défis. Vous savez, Toynbee, c'est les défis qui font les civilisations. Là, il n'y a plus de défis.
Plus
il
de
n'y
challenge,
a plus,
plus rien,
qu'à
ouais.
se laisser vivre. Ouais. Et voyez-vous, ce qu'il y a de grave, c'est que qu'ils en aient profité. Ben oui, on a profité. Et on n'allait pas s'inventer des guerres alors qu'il n'y en avait plus. Mais il fallait penser à la suite. Il fallait penser aux prochaines générations. Alors, prenez un exemple sanitaire, l'exemple sanitaire. Hein. Effectivement, on n'a pas eu de grandes épidémies tout au long de ces décennies. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a détruit les arsenaux sanitaires. On avait des millions, des centaines de millions de masques, tout ça, des moyens de faire face à des épidémies. Bon, pourquoi on s'embête ? Hop, on a tout fichu en l'air. Quand le coronavirus attaque, on n'a plus de réserve. Mais c'est pareil pour l'armée. Mais maintenant, mais il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre. Ah ben alors, des feux, abandonnons tous nos budgets militaires. On n'a plus besoin de ça. Et lorsque Poutine attaque en Ukraine, la seule réponse possible, la seule réponse, ce serait la réponse militaire. Mais on sait très bien que nous, et là en l'occurrence, hein, les autres pays européens sont encore beaucoup plus inconscients que la France. Bon. Donc, je ne vais pas dire. Mais le fait est que l'Europe n'est pas capable d'opposer à Poutine une armée. Alors, on essaye de jouer par des sanctions dont on est en permanence à se demander est-ce qu'elles font plus mal à Poutine ou plus mal à nous. C'est pas clair.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Mais vous voyez que dans toutes sortes de domaines, hein, cette génération ne s'est pas contentée de profiter. Bon, bah, elle traversait une période heureuse, elle en profite. Mais en même temps, elle n'a pas aidé la génération suivante. Par exemple, elle s'est fait pour elle la retraite à 60 ans. Et puis quand elle a vu qu'elle devenait impayable, cette retraite, on a commencé à faire des réformes pour diminuer ses avantages qui pèsent sur les actifs, pas sur les riches, hein, il faut le dire. Bon, donc on a fait des réformes qui vont peu à peu entrer en vigueur. Mais on a appliqué la clause du grand-père. Vous savez ce que c'est la clause du grand-père ? Ça veut dire que nous, qui sommes bien installés, qui profitons de cette situation, nous...
On ne touche pas.
On ne nous touche pas. Mmh. Ce sont des droits acquis. C'est la prochaine génération qui, elle, aura une moins bonne retraite et la suivante qui en aura une encore pire. Mais nous, on s'est fait une retraite aux petits oignons et on se la garde.
Surtout, oui, sauf que vous le savez très bien, François Closet, que beaucoup de gens voient leur retraite déjà diminuer. Ça existe déjà, hein, actuellement.
Que la retraite commence tout doucement à diminuer, c'est un fait. Mais alors, premièrement, il y a en France des très petites retraites à moins de 1000, moins de 900 euros, qui sont un scandale, qui doivent disparaître. Mais pendant un an, on a discuté, là, les retraites. Et on a fait croire aux Français que les retraités, tous avaient des retraites de 1000 euros ou moins. Or, c'est complètement faux. Ces petites retraites qui existent, qui sont scandaleuses, sont heureusement très marginales. Et pour eux, c'est simple, hein, un chiffre. Il y a 3 fois plus de pauvres chez les moins de 30 ans que chez les plus de 60 ans. Donc, qu'on cesse de nous raconter n'importe quoi. Oui, il se trouve que globalement, en France, les seniors, ça on en reparlera, moi j'aime mieux dire les seniors là que les retraités, les seniors ont un niveau de vie déjà supérieur à celui des actifs, ce qui n'existe pas dans les autres pays, mais en outre, il y a un petit détail qu'on oublie toujours, parce que vous savez, en France, il ne faut jamais dire les avantages, il faut pleurer sur les gens, tout le monde est malheureux, tout le monde est victime, voilà, il ne faut jamais dire, eh bien je vais le dire, vous avez les 3/4
des retraités qui sont propriétaires de leur appartement, de leur logement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de loyer. Et avec la hausse de l'immobilier dont nous avons tous, notre génération, profité, les loyers représentent aujourd'hui le quart du revenu. C'est-à-dire que par rapport à la génération suivante qui paye un loyer, eh bien, cette génération retraitée est d'un quart au-dessus. Ça, on n'en parle pas. Mais c'est quand même une réalité, moi, je le dis.
Tout à fait. Alors, François, on a parlé de cela, et c'est bon de donner les chiffres, en tout cas. Alors, la question quand même, et dont vous parlez dans votre livre, on peut se poser la question, y a-t-il eu un déficit neuronal par rapport à cette génération? Parce que c'est vraiment la question centrale. Par rapport à cette génération qui a fait, après 45, qui a fait la France, qui s'est battue, le plan, etc., etc., faut pas rappeler tout cela. Qu'est-ce qui a fait que la génération d'après, donc celle des boomers, n'ont pas à défait la chose, encore qu'on pourrait se poser les questions, est-ce qu'il n'y a pas eu un monde qui s'est défait, en tout cas ici? Pourquoi? Est-ce que négligence, égoïsme, insouciance, inconséquence? Qu'est-ce qui s'est passé? Après tout, ils ne sont pas plus bêtes que d'autres ou plus aveugles que d'autres.
Tout au long de ces décennies, j'ai commis un certain nombre de livres critiquant justement la façon dont la France était gérée. Et j'avais tendance à dire c'est la faute là de la droite, là de la gauche, là des syndicats, là du patronat, là... Et puis là, je me suis dit, mais non, tu n'y es pas. Tu ne vois pas le principal acteur de ce drame. C'est la génération. Qu'est-ce que ça veut dire, la génération? Ça veut dire que les gens d'un même âge ont les mêmes intérêts, un peu les mêmes idées, un peu les mêmes paradigmes.
Qu'ils soient de droite ou de gauche, ou
oui,
tout ça.
Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, la France de 1914, elle rêvait de s'affronter l'Allemagne et de récupérer l'Alsace-Lorraine. Celle de 1939, plus jamais ça, ne voulait surtout pas se battre. Vous voyez, il y a une génération, c'est un phénomène historique. L'histoire rassemble comme ça des gens d'un même âge et contemporains dans une même histoire. Bon. Et donc, la génération qui, disons, arrive à 30 ans en 1945, elle doit se mettre au travail.
C'est clair.
Elle va réussir à reconstruire la France. Et la génération suivante, elle arrive dans une France où, peu à peu, à partir des années 70, les problèmes, je vous dis, disparaissent. Les problèmes disparaissent.
Mais qu'est-ce qui fait qu'elle le
pense?
Et donc,
à partir de là,
oui,
il y a un changement qui est un changement dans la notion de liberté. Je crois que tout, au départ, se passe dans la tête. De Gaulle avait imposé la liberté citoyenne, c'est-à-dire, vous, citoyens, tous, autant que vous êtes au service de la France.
Vous avez des devoirs, et pas seulement des droits.
Vous avez des devoirs, vous êtes au service. Et c'est comme ça que la liberté a été inventée il y a 2500 ans à Athènes. Le citoyen athénien, il était au service de la cité. Bien. Donc, c'est sur cette conception de la liberté qu'a vécu la génération, disons, à l'époque des Trente Glorieuses, mais en renaclant. Elle vivait surtout parce qu'il y avait De Gaulle à la tête, qui l'imposait, qui ne s'en laissait pas.
Ça,
absolument,
quoi.
Et qui ne craignait pas de prendre des mesures très impopulaires s'il estimait que c'était dans l'intérêt de la France. N'oubliez pas, il y avait combien de Français qui l'auraient suivi le 18 juin 40, et il y en a combien qui l'auraient suivi s'il leur avait annoncé en 1958 qu'il allait leur infliger le pire programme d'austérité qu'on ait jamais imaginé, qu'il allait faire la bombe atomique et qu'il allait donner l'indépendance à l'Algérie. Sur tous ces points, les Français auraient refusé. Mais pour lui, il estimait que c'était l'intérêt de la France et il l'a fait. Et c'est comme ça que doit fonctionner la démocratie. C'est-à-dire, à sa tête, il y a quelqu'un, un groupe, peu importe, qui a une volonté mais qui est jugé. Parce qu'en même temps, De Gaulle était jugé par le peuple. Il faisait des référendums, et quand il a perdu le référendum, il n'a pas fait de cohabitation, il est parti.
Alors, on va voir pourquoi cet esprit de De Gaulle n'existe plus, n'a plus existé. Juste après ceci, on continue à en parler avec François de Closet.
Et comparons aussi les générations. Vous nous appelez au 0826 300 300.
Ici
radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et les carottes ne sont pas cuites, justement, même si tout prend cette apparence. François Closet, donc, la parenthèse, effectivement, Beaumers, et on va parler de la réconciliation, mais un peu plus tard. Et je vous disais, avant cette pause, nous parlions effectivement de cette génération, donc de l'après 70, ou de 68 si on veut dire, qui a mis ses droits avant ses devoirs et sa liberté avant sa responsabilité. Or, effectivement, on marche sur deux jambes, il n'y a pas de droit, dites-vous, et vous n'êtes pas le seul sans devoir, il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Alors, vous dites oui, mais il y avait la paix, donc on pouvait ne plus penser, il n'y avait qu'à jouir en tous les sens du terme et se fiche de l'avenir. C'est un peu ça qui s'est passé.
Mais tout à fait. Tout à fait. Et parce que la notion de liberté qui structure tout a changé. Ce n'était plus cette liberté civique qui remonte à Périclès. Oui. Pas du tout. C'était la liberté qui a explosé en 68. C'est ce que j'appelle, entre guillemets, la liberté rien à foutre. C'est-à-dire, ma liberté, c'est instantanément ce que je veux, moi, pour moi,
ici
maintenant,
et maintenant, ouais.
Ici et maintenant, et le reste, on n'a pas à m'imposer des valeurs, des références, tout ça. Non, moi, maintenant. Et c'est cette liberté qui s'est imposée. Et cette liberté, voyez-vous, c'est celle du client. Le client qui vient voir sa compagnie d'assurance, et là, il faut me rembourser. Comment ? Ah non, monsieur, nous avons des... Non, faut... Le citoyen, il est dans la société. Le client, il est extérieur. Et on s'est extériorisé. On a dit, la société me doit tout, mais moi, je ne lui dois rien. Et je dois être libre, libre, libre. Et voyez-vous, on nous a gonflé le... Comble de la revendication de la liberté a été cette liberté de ne pas se faire vacciner que certains nous présentaient comme le premier de tous les droits de l'homme. Et en revanche, de dire la population doit être vaccinée, c'était une offense, un outrage à la liberté individuelle. Vous savez, ça m'a fait penser, il y a pendant une trentaine d'années, à propos de l'automobile, d'un mot. En 1970, qu'est-ce qu'il était libre, l'automobiliste français. Il était libre de se saouler avant de prendre le volant. Il était libre de rouler à n'importe quelle allure. Il était libre de n'avoir pas une voiture en bon état. Libre de tout. Il y avait 15 000 morts sur les routes de France chaque année. Et aujourd'hui, mais cet automobiliste, il pleure toujours, « Oh, je vais perdre des points. » Il regarde toujours, « Est-ce que je dépasse pas la vitesse ?» Il doit mettre sa ceinture de sécurité, etc. Il y a 3 500 morts. Alors, la société de liberté individuelle, c'est la société à 15 000 morts sur les routes. La société de liberté civique, c'est la société à 3 500 morts. Oui. Et moi, c'est celle que je préfère.
Je comprends. Alors là, il y aurait une grande discussion à avoir sur la comparaison entre la liberté, l'automobile et les vaccins. Je crois que c'est pas du tout la même chose, mais je ne suis pas là, on n'est pas là pour polémiquer pendant une demi-heure là-dessus, mais c'est très intéressant, moi je ne partage pas votre opinion là-dessus. En revanche, ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous pensez du fait que, au-delà de ces polémiques, il y a quand même des gens qui vous disent, par exemple, est-ce que vous dites ça comme c'est pour les vaccins, que moi, par exemple, voilà, on a parlé de la fête des mères, il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman, il y a des minorités, moi je suis ceci, moi je suis cela, je suis décolonisé, je suis racisé, je suis ceci. Là-dessus, est-ce que vous mettez ça dans le même sac ? Revendication, moi, ma minorité, ma communauté, ça c'est à moi, et puis vous autres, vous n'êtes pas dans le vrai, parce qu'on s'assiste à ça, le cancel culture, le woke et tout ça, vous voyez ?
Alors, je pense que la première, il y a deux communautés dans lesquelles l'homme doit se reconnaître, qui est sa famille et sa nation. Mmh. Et que c'est aussi tragique d'être orphelin de sa famille que d'être orphelin de nation. Mmh.
Et effectivement, on projette. Et voyez, quand on parle des générations, on voit très bien que le phénomène générationnel, il est dans la famille, hein, le père, le grand-père, les enfants, le petit-fils, etc. Et dans la nation, c'est la même chose, les générations qui se succèdent. Hein. Simplement, on ne veut pas le voir. Hein. On veut bien se dire qu'on aime beaucoup nos enfants, etc. Mais on ne veut pas se dire que nous, les retraités, hein, on fait payer nos enfants pour qu'ils nous entretiennent. Ça, on ne veut pas se le dire parce que ce n'est pas très élégant.
Mais nous avons travaillé, nous, les retraités. Vous avez travaillé, mon cher François. Vous avez gagné votre vie.
Non, mais je conteste pas du tout le fait vous qu'à l'avez... la fin de la vie, oui. quand on est fatigué, usé, on soit aidé par la génération suivante. Ça me paraît tout à fait normal. Mais quand je vois quelqu'un qui vient dire « À 60 ans, on ne peut plus travailler, on est fini, on est usé, donc je vais à tous vous donner la retraite à 60 ans, mais votez pour moi, j'ai 70 ans et je veux gouverner la France pendant 5 ans. » Non, faut arrêter d'être ridicule. Je pense que la plupart d'entre nous pouvons encore nous rendre utiles, parce que travailler, ça veut dire ça, ça veut dire oui. se rendre utile. On peut encore se rendre utile dans les années 60-70 ans.
Surtout si on n'a pas un travail physiquement pénible, ah ben non, on n'est pas...
La retraite ouvrière, hein, oui. Tout ce que je mets dans le mot ouvrier, la retraite ouvrière à 60 ans s'imposait en 1980 et même avant. Ça... Quand je parle d'une retraite que l'on prendrait plus tard, c'est pour des gens qui sont en bonne santé et qui n'ont pas eu un métier qui les a usés physiquement, ce qui est aujourd'hui le cas de l'immense majorité des Français et des Françaises.
Alors vous parlez de la famille de la nation, François Closé, c'est intéressant. Quand vous expliquez qu'une partie de cette génération, je parle de la génération que vous, non pas que vous vilipendez, mais que vous dénoncez, et quelque part jeter le bébé France avec l'eau du bain. Vous savez, mais on l'a dit, on parle plus de la France.
Mais pour une raison évidente. On tient à la nation dans la mesure où on a besoin de la nation, dans la mesure où on doit affronter des crises, des périls face auxquels la nation seule peut vous protéger. Or, à partir des années 70, nous avons fait décider que, je vous dis, l'absence de maladie, l'absence de guerre, la croissance, le travail, tout ça, c'était des acquis définitifs. Mais qu'est-ce qu'on avait encore besoin de la France ? Et donc, tout naturellement, eh bien, à mesure que l'on s'installait dans cette histoire en hibernation où tout était simple, où il n'y avait plus de drame, on a mis la France au musée, on l'a sortait le 14 juillet ou pour les victoires dans la Coupe du Monde de football. Le reste du temps, on en s'en fichait complètement, bien sûr. Et quand a-t-on commencé à se dire tout de même la nation, c'est important ? Quand le virus nous a attaqués et qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait que la nation qui pouvait faire un barrage à l'épidémie. Ouais. C'est aussi simple que ça.
C'est intéressant comment le réel frappe à la porte, c'est ça.
Et voilà, le réel, c'est le grand professeur, le grand enseignant. Mmh. Et le réel, en tant qu'enseignant, a complètement fait défaut au cours de cette parenthèse heureuse.
Eh bien, on va en parler avec les auditeurs du Sud Radio, Augustin.
Et vous prenez la parole en nous appelant au 0826-300-300 et dépêchez-vous, il vous reste une demi-heure.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et direction la pointe sud-ouest, au Perpignan, nous sommes avec Yvette. Bonjour Yvette.
Bonjour Yvette.
Bonjour. Bonjour, bonjour à vous deux. Voilà, moi je ne suis pas très contente d'entendre M. François Closette parler comme ça. Franchement, il m'a énervé, ça m'a coupé l'appétit, il m'a énervé, mais de chez énervé. Hein.
À ce point.
Qu'est-ce qu'il dit ? Ah oui, à ce point-là, parce que moi j'ai 72 ans, j'ai cotisé pendant 41 ans, monsieur. 41 ans, sans demander à qui je donnais mon argent. Je touche 1090. Je paye un loyer, monsieur, parce que Si j'avais su, j'aurais fait comme mes congénères, j'aurais pris un crédit pour avoir une habitation, ça aurait été comme un loyer, et aujourd'hui, je n'aurais pas cette masse-là à donner. Et ne me dites pas, j'ai de l'allocation logement, non, j'ai 20 euros d'allocation logement, et on marque parce que vous n'avez pas d'activité. Forcément, à 72 ans, j'ai pas d'activité. Et j'ai beaucoup autour de moi qui ne touchent que 1000, 1090, mais qui payent un loyer en entier. Ils croient qu'on est des nantis, comme en 68, monsieur. En 68, oui, j'ai eu la liberté. Quelle liberté, hein, mon père était chez Renault, nous, on mangeait à la cantine. On avait le droit à rien, tout ça, parce qu'un condamné de mes deux, là, il a été foutre la pagaille partout, puis qu'on le revoit aujourd'hui avec sa bouche argumentée. Vous êtes pareil, vous êtes dans le même truc, vous poussez au crime, vous savez, quand vous dites des choses comme ça. Parce que moi, mes voisins, quand ils se lèvent, les petits jeunes, ils me disent souvent, alors la vieille, tu vois, aujourd'hui, on va travailler pour te payer ta retraite, voilà. J'ai jamais rien dit, moi, pendant 41 ans, moi, monsieur. C'est sur quoi vous vous basez pour être aussi... Et puis tous les trucs comme les masques et tout ça, c'est pas nous qui avons dit faites comme ça, faites comme si, c'est pas nous qui avons dit mettez les retraites à tel âge et tout ça. On avait qu'à se la fermer aussi, nous, comme à l'heure actuelle. C'est un peu gros votre truc, voilà, c'est ça, je voulais le dire.
Ok, écoutez, François Closet va vous répondre, vous avez dit ce que vous aviez à dire.
Écoutez, madame, quand on parle d'une génération, il y a les milliardaires et les pauvres. Une génération, c'est l'âge, voyez-vous, comme critère. Donc forcément, si je parle de ce qui s'est passé à l'époque où cette génération se trouvait être effectivement en charge de la France, il y a effectivement eu des gens très pauvres, hein, et des gens très riches. C'est pas comme si je disais les ouvriers. Ben, les ouvriers, il n'y a pas beaucoup de milliardaires parmi les ouvriers, c'est vrai. Si je parle des biens portants, bon, il n'y a pas de malades. Là, je parle d'une génération. Et donc, le fait, et je le dis dans mon livre, et pas lu le livre, mais si vous lisiez le livre, vous verriez que je ne cesse de dire d'abord que s'agissant de la retraite ouvrière, et vous comprenez ce que je veux dire, hein, c'est oui, les gens qui travaillent dans les usines, sur les chantiers, dans les abattoirs, etc. La retraite ouvrière, ben, les gens à 60 ans, devait être tout de suite décidée, et bien avant 1982. En revanche, la retraite pour tous à 60 ans, alors que la science fait qu'aujourd'hui, à 60 ans, nous sommes dans la situation où étaient physiques, où étaient nos parents à 50, et que d'un autre côté, oui, quand ces gens jeunes vous disent « Ah ouais, mais c'est moi qui paye la retraite », mais c'est tout à fait vrai. La retraite, dans notre système, n'est pas la retraite dans laquelle nous consommons l'argent que nous avons mis de côté. Ça veut dire que nous avons payé pour nos parents et nos enfants vont payer pour nous. Vous comprenez? Et à l'heure actuelle en France, bien sûr qu'il y a des retraites, je l'ai dit et je l'ai écrit, qui sont scandaleusement basses. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais je le sais très bien et je ne dis pas le contraire. C'est une honte de laisser entendre que je dis le contraire. Je le
non,
dis.
Mais vous avez dit qu'on était des nantis quand on ne payait pas de loyer.
Bah, non, c'est pas, non, c'est pas normal de... je ne
si,
dis pas
ça. Vous avez dit la plupart de ces gens-là, ils ne payent pas de loyer parce qu'ils ont acquis. Ben heureusement, ils ont pris un crédit pour ça. Hein,
mais que je ne critique pas le fait que les trois quarts des retraités aient acquis leur logement et ne payent plus de loyer, je le constate. Et je dis que par rapport, voyez-vous, à la génération suivante, où ils se trouvent face à des prix de l'immobilier qui ont augmenté de 50%, et ou bien ils ne peuvent pas et n'ont pas pu acheter, ou bien ils sont écrasés par le remboursement des traites, il est évident que celui qui est à 70 ans chez lui sans payer de loyer a un niveau de vie qui est d'un quart plus élevé que celui qui a 20 ans de moins et qui il doit payer son loyer. Je constate les choses. Il y a aucune... Vous n'avez pas à être culpabilisé parce que vous ne payeriez pas de loyer si vous avez votre appartement. Mais d'un autre côté, il ne faut pas dire que ceux qui sont propriétaires de leur logement et qui ne payent pas de loyer, ont le même niveau de vie que ceux qui... Non, c'est pas vrai. Il faut dire les choses. Et en France, on crève de ce que tout le monde veut prétendre être malheureux, se faire plaindre, etc. Moi, je sais quand. Là, ce livre, c'est le toujours plus des générations. Hein. J'ai fait le toujours plus des corporations il y a 40 ans. Tout le monde m'est tombé dessus parce que j'ai montré que bah, telle ou telle corporation, ils ont des avantages, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens malheureux, méritants dans toutes les catégories. Mais on ne peut parler de rien si on met toujours devant les gens malheureux, qui existent, c'est vrai, et qu'on s'en sert pour cacher les gens qui sont moins malheureux, voire qui ne sont pas malheureux du tout. Ben moi, je veux dire les choses comme elles sont.
Merci Yvette.
Merci Yvette, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on a beaucoup, beaucoup d'éditeurs.
Nous sommes avec Chantal qui nous appelle de Prades. Bonjour Chantal.
Chantal, bonjour.
Oui. Bonjour, moi j'espère porter un petit peu de sérénité dans tout ça. Je suis pas loin de Perpignan, donc on est vraiment... Enfin, moi je suis une catalane.
Oui.
Voilà, moi ce que j'avais constaté, c'est que je fais partie de cette génération, j'ai 68 ans, où nous avions, quand nous avons 20 ans, 30 ans, où tout nous était dû, effectivement, parce qu'il y a eu la guerre d'Algérie, parce que nos parents nous parlaient de la guerre de 45, et qu'on comprenait tout à fait qu'ils veulent pour nous un monde meilleur. Et moi, la première, puisque j'étais dans le move, comme on dit, j'ai dit à ma fille, bah, écoute ma fille, quand j'aurai 60 ans, tu mettras dans une maison de retraite et tout sera bien joli. Maintenant j'ai 68, je suis bien fière qu'elle ne l'ait pas fait. Donc nous sommes totalement quelque part responsables de ce qui se passe aujourd'hui, parce que nous l'avons engrangé, vécu, la gym à tout prix, les rides de zéro, les choses comme ça. Mais maintenant, moi quand je parle avec des jeunes, parce que moi je dis jeune, ma fille elle a 44 ans, et quand je leur parle, je leur dis, mais quand vous aurez mon âge ? Ils ne peuvent pas se projeter dans mon âge. Ils sont dans le présent. Mmh. On ne leur a pas donné les moyens, puisque nous les avions, nos parents nous les avaient transmis. Nous n'avons pas su transmettre dans cette société de consommation que nous avons vécue et dans laquelle je suis tombée les deux pieds dedans. Je n'ai pas le honte à le dire. Eh bien, on n'a pas su transmettre que, entre parenthèses, la richesse de l'humanité, c'était nos enfants, tout simplement. Et la transmission, quand quelqu'un avant, à 60 ans, était encore en travail, eh bien, il était le parrain, quelque part, du jeune qui rentrait pour lui apprendre les ficelles et les contraintes du métier. Là, nous ne l'avons plus.
Madame, ce que vous dites est admirable. J'ai rien à ajouter. On a assassiné l'avenir. C'est-à-dire que ce que l'on appelle la discipline civique, c'est la discipline au service de la société, de la nation, mais la nation, elle est dans l'avenir. Et donc, on doit apprendre, construire l'avenir par nos investissements et par l'éducation. On doit effectivement donner un avenir à nos enfants, c'est-à-dire, vous savez, dans les années 60, tout le monde disait, était persuadé que nos enfants vivraient mieux que nous. Et puis, on est arrivé dans les années 2000, où on a au contraire tous compris que nos enfants vivraient plus mal que nous. Parce que ces jeunes, on leur a supprimé l'avenir dans les faits, dans la tête, dans la nature. C'est cela que cette société est coupable. C'est pas d'avoir été heureuse. Tant mieux si on a été heureux, si on a profité de l'immobilier, tout ce que vous voulez, mais nous devions aider la génération suivante à construire son avenir et non pas tout prendre pour nous. Après moi le déluge, et ben maintenant il pleut.
Complètement. Mais c'est ce que nous avons, c'est ce que nous avons cru, parce que c'est ce qu'on nous avait dit, quelque part on était un petit peu débonnés, on était dans une société vraiment tellement luxueuse, tous ces trucs-là, et bien on n'a pas su transmettre, et maintenant nous transmettons, mais très tard. Mais il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et qui nous le disent, et qui nous disent, mais voilà, nous on veut comprendre, ils rentrent dans les sociétés, et moi je suis une ancienne artisane, hein, et bien ils rentrent dans les sociétés, dans l'artisanat, et il n'y a personne pour leur faire voir comment il faut faire.
Je crois qu'il y a une question de culture, oui,
ils restent comme ça. Oui.
Et il y a une question, vous voyez, fondamentale aussi, pas sans se battre la coulpe du matin au soir, là aussi il ne faut pas tomber dans ce masochisme-là, mais quand même François, François de Closet, il y a une question de culture et de transmission, et ça n'a pas été fait. Pas seulement par nous ou par d'autres, mais par tout un système qui a cassé la culture et cassé la transmission.
Mais il est sûr qu'on a cassé la transmission, d'abord à l'intérieur des familles, hein, parce que cette notion de la liberté moi tout seul, ce que je veux, rien à faire des autres, ça a cassé l'autorité. L'autorité qui cimentait les sociétés depuis le sommet des pouvoirs politiques, mais aussi dans la famille, les parents, oui, avaient une autorité par rapport aux enfants. On a voulu supprimer tout ça. Et supprimant tout ça, on a fait naître l'angoisse chez les jeunes, on a fait disparaître l'avenir. Jeunes, on dit, ils parlent dans le présent, oui, ils n'ont plus d'avenir, mais est-ce qu'on leur a donné un avenir ?
Oui, mais attendez, est-ce que vous ne croyez pas aussi que certains exemples d'autorité étaient faux exemples, et que les jeunes ont eu aussi la réaction de dire, mais écoutez, ce que vous nous racontez est bidon, et vous parlez d'autorité, mais dans les faits, vous comportez comme des responsables.
L'autorité, c'est d'avoir fondé sur l'exemple, et effectivement, ce n'est pas facile. Et je ne pense pas que les boomers aient donné le meilleur exemple à leurs jeunes. Et quand les jeunes aujourd'hui disent, nous, on fera ce qu'on veut. Et attention, l'exemple absolu, c'est ce que nous avons fait de la Terre. Hein ? Alors que depuis 1960, nous savons que les sociétés industrielles sont en train de foutre en l'air la nature, on a joyeusement continué. Et maintenant, on dit aux jeunes, eh ben oui, c'est un peu abîmé, hein, mais il faudra... Non, les jeunes disent, mais comment vous avez pu faire ça ? Comment vous pouvez maintenant nous faire la leçon après avoir commis cet écocide insensé ?
Alors là aussi, c'est une grosse polémique hein, avec François Closet. Moi, je ne suis pas du tout de cet accord, mais on est là pour l'écouter.
Mais c'est bien, puisque ça déclenche des appels au standard.
Absolument.
Et au 0826-300-300.
Il va recevoir des appels.
À tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Allez, on va tout de suite dans l'Essonne avec Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Jean-Claude.
Sud Radio, bonjour. Monsieur Berkov, bonjour. Encore félicitations pour votre émission. Vous avez fait un abonné quotidien de plus depuis longtemps.
Mais merci.
Mais c'est normal. Hein. Monsieur François de Closette, très heureux de pouvoir échanger quelques mots avec vous.
Bonjour.
Déjà, j'ai 68 ans, je suis né en 1954, donc je pense que d'après vous, je suis un boomer.
Oui.
mais je suis très heureux de vous écouter. Hein. Je vous ferai un compliment, puis après je poserai ma question. Hein. Ça me rajeunit, et monsieur François de Closette, je vais vous faire un compliment. Alors je ne sais pas si comparaison n'est pas raison, mais moi, vous avez une voix, hein. Je me rappelle de vous à la télé, hein. Et quand je vous entends... Hein, vous n'avez pas perdu votre verbe, vous n'avez pas perdu, c'est quand même extraordinaire. Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec vos analyses.
Mais heureusement, il ne faut jamais être toujours d'accord.
Vous êtes quelqu'un de pertinent. Alors, je vais aller très vite. Hein.
Allez-y.
Moi, effectivement, je suis né en 54, 68 ans, donc je rentre dans la génération, certainement dans les cases de personnes qui a peut-être profité... sans doute, profiter d'une belle vie, pas de guerre, pas de crise. Et au niveau générationnel, ce qui m'a un petit peu interpellé dans votre intervention, moi je me souviens qu'à une certaine époque, 50 ou 60 ans, mes parents s'occupaient de leurs parents. Maintenant, on a un petit peu inversé la situation, c'est-à-dire que les parents s'occupent plus et prennent en charge leurs enfants. Je le vis au quotidien. Mais est-ce que vous ne croyez pas, monsieur de Closet, que nos dirigeants, sans faire de politique, ne pensez-vous pas que depuis 50, 60 ans, nos dirigeants ont été un petit peu aveugles, volontairement ou frappés de cécité, par rapport à l'évolution de ce qui allait se passer dans nos sociétés ? En France, on est toujours septième, ça ne veut rien dire. On a supprimé toutes nos unités de production. Donc, si vous voulez, on n'a plus rien, on ne produit plus. Moi, je ne sais pas franchement comment, la question que je vous pose, c'est celle-là. Est-ce que vous croyez qu'il est encore possible, ça c'est une question, parce que là, on est en 2022 maintenant, le problème, il est crucial. Notre jeunesse, nos jeunes, Est-ce que vous pensez vraiment, je ne dirais pas qu'on peut revenir en arrière...
Allez-y, allez-y Jean-Claude, posez la question.
Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et quel serait? Parce que moi j'ai un mot, droit-devoir. Droit-devoir, et je pense qu'on a fait des générations, malheureusement avec plus de droits que de devoirs. Je sais bien que le travail n'est pas facile, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur de Closet?
Ben, écoutez, dans ce livre, vous verrez qu'il y a un chapitre gris. Tout est entouré de gris. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement un livre de dénonciation, c'est un livre de proposition. Et je dis ce qu'il faut faire, parce que tout de même, jusqu'à présent, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le mot vieillissement. Nous sommes dans une société de vieillissement. Jamais dans l'histoire, l'humanité n'a eu de société de vieillissement. Ça veut dire que très concrètement, là, devant nous, dans les années qui viennent, nous allons voir se multiplier les nonagénaires et les centenaires, alors j'en parle pas, et que nous n'avons rien prévu pour faire face à cette situation. Alors, effectivement, quand vous dites, mais autrefois, nous nous occupions
de
nos parents, bien sûr, mais évidemment, quand maman était âgée, elle avait simplement élevé 8 enfants toute seule, hein. Donc elle n'avait rien fait de sa vie, donc elle n'avait pas de quoi vivre. Et c'est ses enfants qui ont dû l'aider. C'est vrai. On
c'est
est
normal,
parti
d'ailleurs.
D'une vieille... Oui, mais c'est scandaleux que les vieux, à l'époque, n'avaient rien et ça a duré jusque dans les années 70. Et puis là, il y a eu un rattrapage parce que la France se faisait plus âgée, pas encore vieille, et cette génération des boomers, elle a totalement revalorisé la condition des vieux. Elle a fait que les vieux gagnent un peu plus, pas gagnent, mais ont un niveau de vie un peu supérieur à celui des actifs, des travailleurs, ce qui n'existe dans aucun autre pays. Et donc maintenant, ce sont, en même temps, ça s'est fait au détriment des plus jeunes, et maintenant ce sont les parents et les grands-parents qui aident leurs enfants, tout comme
ou leurs petits-enfants aussi.
Ou leurs petits-enfants, ouais. Tout comme il y a 50 ans, c'était au contraire les enfants qui aidaient leurs parents vieillissants. Mais je pense que pour faire face à cette vague vieillissante qui arrive, eh bien, il va falloir changer notre société. Ce ne sera plus seulement une société dans laquelle on travaille, on gagne de l'argent et puis on consomme. Non, ce sera une société qui devra retrouver du lien. Parce que, voyez-vous, pour faire face à cette multiplication des vieux de 90, 100 ans, hein, qui n'ont pas seulement besoin qu'on leur verse une pension, il faut qu'on les aide, qu'on les assiste. Ce sont des sociétés, des générations qui vont se retrouver en état de dépendance. Et où va-t-on trouver 1 million de personnes pour venir permettre à ces personnes de vivre chez elles, toutes seules, abandonnées? On sait très bien. Et qu'on n'aura pas l'argent et qu'on ne trouvera pas les gens pour faire ce travail. Donc, il faut réorganiser notre société, c'est ce que je propose. Et je dis quelles sont les mesures à prendre pour refaire du lien social, c'est-à-dire pour que les boomers, les seniors, ceux qui ont entre, disons, 60 et 80 ans, qui sont encore en parfaite forme physique, cela aille au-devant des plus vieux, des plus anciens, et les aide. Et il faut organiser cette solidarité à ce moment-là. Les personnes très âgées et seront moins malheureuses, ne seront plus abandonnées et sur le plan financier, ça ne ruinera pas la France.
Vous voyez que
seulement, il faut changer nos relations, il faut recréer du lien social, une société plus humaine et pas seulement commerciale.
Vous voyez que François Closet a des propositions et moi je le vois très bien se présenter à la présidence de la République dans 4 ans. Ça va vite, 4 ans, François.
Oui, je serai un peu jeune quand même.
Et nous sommes tout de suite avec Loïc qui nous appelle de Lourdes et qui est loin d'être un boomer. Bonjour Loïc.
Bonjour Loïc.
Oui, bonjour. Bonjour André, bonjour à votre invité, j'espère que vous allez bien.
Ça va, bonjour. Merci.
Et j'espère que vous m'entendez bien. Si jamais ce n'est pas le cas, vous me le dites, parce que je suis dans un petit village qui ne capte pas super bien. Donc,
eh bien, on vous entend bien, Loïc. On vous entend, bon, allez-y.
Merci. C'est juste pour dire que déjà, bon, je suis d'accord avec ce qu'il dit qu'il faut changer. Là, je suis totalement d'accord, il faut changer de paradigme. D'ailleurs, je pense que le paradigme va se changer naturellement et on est rentré dans un nouveau paradigme. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'ancien paradigme, c'était assurer sa sécurité. Donc construire sa maison, avoir de l'argent pour renforcer son foyer et assurer sa sécurité. On part vers un nouveau paradigme et on peut le voir déjà maintenant, c'est l'entraide. L'entraide avec les, comme ce qu'il propose. Mais ça se voit pour les anciens, il y a l'aide à domicile qui est en train d'exploser un peu de partout. Ça crée de l'emploi pour les nouvelles générations qui aideront les plus anciennes. Donc déjà, ça c'est un bon point.
Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui veulent prendre ce genre d'emploi, attention.
Mais il y en a, il y en a.
Il y en a de plus en plus. De plus en plus.
C'est vrai.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de cités d'ailleurs où ils sont en train de créer des choses fabuleuses. Moi, j'ai un ami qui est dans une cité où ils sont en train de créer des choses fabuleuses où ils aident les gens autour d'eux. Donc ça casse un peu les a priori, on va dire, sur les gens de cité. Et ensuite, j'aimerais vous poser une question, en fait,
allez-y.
Par rapport à ce que vous dites. En fait, vous dites que c'est la faute aux gens de la génération d'avoir laissé faire. Mais ne pensez-vous pas que ça a été fait à leur insu, en fait, qu'ils se sont fait manipuler un peu par le système, par ce que voulait le système, par les émissions de télé, par les musiques, par les stars qu'on a mis en avant, qui montraient cette nouvelle façon de vivre, qui était en fait la liberté, penser à soi. Ça a été un peu imposé à ces gens-là, dans leur inconscient.
Écoutez, nous sommes en démocratie. Et en démocratie, ça nous retire l'excuse des dictatures. Quand on est en dictature, on dit « Mais on nous a imposé ça, on y était pour rien, on ne le voulait pas, mais on était obligé de le faire. » Parce que c'est une dictature. Une démocratie, monsieur, c'est l'engagement de tous les citoyens. Et si, au total, la politique qui est faite dans une démocratie ne convient pas, on ne peut pas dire que c'est une puissance étrangère qui nous l'a imposée. Hein, c'est tout de même les Français,
pardon, François,
qui, dans leur majorité, l'ont choisi.
Non, François, il ne parle pas de ça, il parle d'idéologie. Et vous savez très bien, l'idéologie, ce n'est pas le pouvoir politique.
Alors, si on parle de l'idéologie, est tout à fait exact que s'est développée une idéologie toujours contre le collectif et pour l'individuel, une idéologie stupide, facile et détestable, et donc il nous faut sortir pour retrouver une idéologie du nous et du tous ensemble, pas seulement du moi d'abord et tout de suite.
Un exemple, ma génération, parce que moi je suis de 86, par exemple, dans les années 90, le rap que j'écoutais, le reggae, qui servait à dénoncer le système, il y avait de belles paroles, des groupes de rap comme IAM, comme Sniper, il y en a eu plein qui dénonçaient. Maintenant qu'on voit la jeunesse, à quoi elle est confrontée comme musique, tout ce qui se passe à la radio, des choses comme ça, c'est des textes, des chanteurs qu'on met en avant, qui n'ont plus de message, qui sont là pour abrutir les masses. Et on voit les émissions de télé, les cours à l'école, les notes dans les années 50, 60, le bac avait plus de valeur que maintenant. Le but est d'appauvrir les masses, parce que si on les appauvrit, ces gens-là ne peuvent pas se renseigner par eux-mêmes et ne peuvent pas se révolter contre le système.
Cher ami, vous voulez me permettre une seconde de revenir dans mon rôle qui est le vieux, et de confronter mon expérience à la vôtre. Moi, mon expérience, c'est que quand j'avais 20 ans, je vivais en poésie. La poésie était un genre capital. Et puis la poésie est passée dans la musique. Et la musique des chansons des années 60, 70, c'est une merveille. Et je l'écoute toujours avec le même bonheur. Et puis après, on est passé à d'autres genres et qui, moi, m'ont pas satisfait. Mais je n'ose pas le dire de peur de me dire « Mais tu es en train de devenir un vieux con ». Je pense quand même que oui, on n'a pas gagné en qualité sur le plan culturel.
Merci François de Closet.
Et je rappelle le titre de votre livre, la parenthèse Boomers, réconcilier les générations aux éditions Fayard. Merci d'être passé. Et puis tout de suite, Brigitte Lahaie.